Nos métiers disparus, la suite avec vous, Serge Bradet. Vous commencez par la blanchisseuse.
La blanchisseuse, oui.
Exercice
oui.
de diction.
Oui.
La blanchisseuse.
Un article de...
Sèche le linge. Bon, allez-y.
Un article de Carole-Anne Deslebeau de la revue Nostalgie hors série, un numéro de 2024. Les manches rabattues jusqu'aux coudes, les cheveux recouverts d'une ample capeline, elles frottaient sur leurs planches en tôle cannelée avec ténacité. Ténacité. Depuis l'aurore, les laveuses avaient établi leur camp près d'un clair ruisseau, donnant l'impression d'un tableau des plus pittoresques. J'ai un tableau de laveuse qui me vient en tête, je sais pas c'est qui le peint, Renoir, Monet, je sais pas trop, là, le...
Avec la planche à laver.
Ouais, je viens juste d'y penser, là, j'aurais dû regarder.
La laveuse?
Hein?
Vous l'appelez la laveuse?
Non, ça devait être les blanchisseuses, ouais. Il me semble. Ou les... en tout cas. Le métier de blanchisseuse est l'un des rares qui perdurèrent jusqu'à nos jours, bien que son concept fût de tout temps en constante évolution. D'après l'historien Édouard Zotique-Massicotte, un nom bien québécois, la toute première trace d'un service de blanchisseuse, de blanchissage au Québec remonte à l'an 1660. En effet, selon les registres, Marguerite Bourgeois, fondatrice de la Congrégation de Notre-Dame de Montréal, recevait 80 livres par an pour le nettoyage des linges d'église. Quelques autres blanchisseuses furent également répertoriées au cours des années qui suivirent, mais ce n'est qu'au 19e siècle que ce métier gagna en popularité avec l'ascension du monde de l'hôtellerie et de la villégiature. D'ailleurs, on dit que à Val-Bélair, vers 1926, la buanderie constituait la plus grosse industrie des environs, alors que 3 familles sur 4 vivaient principalement du lavage effectué pour les gens de la ville de Québec. Travaillant pour des familles bourgeoises ou des hôteliers, ces femmes venaient cueillir le linge sale en charrette afin de le ramener chez elles. Certaines travaillaient à l'extérieur, près d'une rivière, car l'eau courante était préférable à l'eau des puits. Elles y installaient de gros chaudrons en fonte suspendue, lesquels servaient à faire bouillir les vêtements. D'autres, davantage équipés, œuvraient sous un hangar dont le plancher volontairement incliné permettait de mieux faire égoutter l'eau. Toutefois, malgré les différents outils, les techniques restaient vraisemblablement les mêmes. Alors, c'était quelque chose. Tout d'abord, afin de décrasser le linge, la blanchisseuse séparait les composants clairs des morceaux colorés avant d'en soustraire les pièces les plus souillées.
La base.
Oui, qu'elle faisait longuement bouillir avec son lessie à base de cendre de bois.
Ah, ça, je ne fais pas ça.
Ouais. Non.
Après cette première étape adoptée lessive, on passait au lavage, qui consistait à sortir tous les chiffons des cuves et à les étaler sans les tordre dans un baquet, où ils se voyaient nettoyés au savon de potasse, un puissant résidu qui se formait lors de la fabrication du lessie. Par la suite, la travailleuse laissait les vêtements reposer quelques minutes dans cette savonnure, pour ensuite les frotter vivement sur une planche à laver en bois ou en tôle. Ensuite, armée de son essoreuse, constituée de 2 rouleaux entre lesquels elle insérait les pièces, cette dernière en expulsait l'eau, avant de passer à l'étape de l'étendage. Enfin, une fois les tissus secs, avec doigté, la blanchisseuse les humidifiait d'eau ou de thé et les repassait au fer chaud avec minutie, sans oublier d'humecter les collets et les poignets des chemises d'eau additionnée d'emploi, afin de les amidonner. Finalement, de leur blanche main, elles rapportaient ces pièces de vêtements parfaitement pliées et classées par catégorie dans de vastes paniers d'osier, desquels émanait une douce fragrance de propreté.
Quel travail! J'espère qu'on faisait attention au linge propre.
L'ère de ces savonneuses expira au cœur des années 1950, quand même, ça a duré assez longtemps, au moment où plusieurs buanderies à la fine pointe de la technologie commencèrent à émerger dans les villes.
Et vous aviez raison, Serge, La blanchisseuse, c'est le titre d'un tableau de Pierre-Auguste Renoir.
Ah, Renoir!
Et l'ami Mathieu disait qu'elle avait inspiré La blanchisseuse de plusieurs peintres de cette époque.
Ah ben oui.
Genre Degas.
Maintenant, c'est ce qui vous passionne tout le monde, là, appliquez votre curiosité.
Ah oui, la loueuse de
sangsue. La loueuse de sangsue, oui. En Égypte ancienne, les guérisseurs connaissaient déjà les vertus médicinales des sangsues. Mais c'est au 19e siècle que la thérapie par les sangsues atteignit son âge d'or. Dès lors, elle fut essentiellement utilisée comme moyen pour effectuer une saignée, une pratique courante à cette époque. Article toujours de Carole Anne D. Lebeau. Dans les années 1800, la sangsue curative représentait une méthode très répandue au Québec. On s'en servait, entre autres, pour soigner divers maux tels que des infections, des coupures, ou même pour traiter certains troubles mentaux. On traitait tout, hein? La panacée, là. Longtemps considérée comme un remède universel pour presque toutes les maladies, la saignée reposait sur la théorie des humeurs, propagée par les médecins hippocratiques et galéniques. Selon cette doctrine, la plupart des affections étaient prétendument dues à une perturbation des humeurs. Les humeurs, c'est le sang, la bile jaune, la bile noire et le phlegme dans le corps. La saignée était censée rétablir cette harmonie en vidangeant le trop-plein d'humeur. Mais cette forte demande en sangsue en fit une espèce menacée, voire prisée, à un point tel qu'un véritable marché fut mis sur pied. Et il semble même que dans les vieux pays, pour 30 sous, les loueuses de sangsue pouvaient installer jusqu'à 80 petites bêtes à ventouse sur le corps de quelques miséreux, toujours dans un contexte thérapeutique, bien entendu. Toutefois, au Québec, elles intervenaient surtout en autant que revendeuses, fournissant les apothicaires et médecins de l'époque en bestioles vampiriques. Certes, chacune de ces loueuses y allait de sa méthode quand venait le temps de dénicher de nouvelles sangsues, mais certaines techniques firent rapidement leurs preuves. C'est le cas de la méthode du bas de nylon, qui se résumait à cacher un morceau de foie de lard bien saignant dans un bas avant de le fermer d'un nœud. Il suffisait de le suspendre à une branche dans un endroit propice, comme un marécage, et il ne fallait alors que quelques minutes au sangsue pour venir s'y coller afin de sucer le sang du lambeau de chair. Heureusement, la médecine a beaucoup évolué depuis, me direz-vous. Mais, attendez, pas fini. Sachez encore qu'en 2024, c'est-à-dire la revue de 2024, donc on peut dire encore qu'en 2026, l'utilisation de sangsue en chirurgie est toujours d'actualité.
Non.
Ou lors de la transplantation de membres. En effet, elles sont employées afin d'activer le transfert sanguin entre deux jonctions d'un membre qui doivent être recousues ensemble. Et la sangsue se nourrit du sang qui stimule la circulation et du coup va raviver la croissance des capillaires et rétablir le flux dans la partie du bout qui était perdue. C'est fascinant.
Alors, la loueuse des sangsues n'est pas complètement disparue.
Ben, je pense que ça doit être des entreprises maintenant.
Oui, oui, oui.
Fermes d'élevage de sangsues.
Oui, oui, oui.
Et c'est un métier pratiqué par les femmes en plus.
Oui, absolument. Oui, oui, oui.
Il n'y a pas de loueur de sangsues. Oui, oui, mais il y avait un quêteux. Il y avait des quêteux.
Des quêteux, oui. Là, j'aurais peut-être pas le temps. Bon, on va y aller.
Entre le quêteux ou la fille du téléphone.
La fille du téléphone.
On y va avec la fille du téléphone. Alors, trois métiers pratiqués par des femmes.
Oui. Vos enfants et vos petits-enfants seraient bien embêtés s'ils devaient passer par une standardiste chaque fois qu'ils désirent appeler un ami. Ils le seraient encore plus s'ils devaient réserver plusieurs semaines d'avance l'appel d'outre-mer. S'ils veulent partir avec parler avec un ami en France. Et pourtant, il y a moins de 100 ans, c'est ce que nous devions tous faire pour entrer en communication avec, les uns avec les autres. Un article de Virginie Cloutier-Nault. Au début du siècle dernier, les gens ne pouvaient pas décrocher le combiné du téléphone et composer eux-mêmes le numéro. C'est une standardiste qui devait faire ça. Alors, la connexion se faisait manuellement. Là, on voit ça dans les films des fois. Oui. Là, elle allait... plugger, brancher la prise.
On pense à la petite séduction là, avec Rita Lafontaine et
oui,
Clémence Desrochers,
ça, oui. Exactement,
qui écoutaient
oui.
les conversations mmh, aussi.
Oui, oui. Dans les années 1940, Montréal-Terrebonne ou Montréal-Lachine étaient des appels longue distance.
Oui.
Aujourd'hui, hein, on
un
appelle à Paris.
Un ongle distance. Puis... Je disais ça quand j'étais petit.
Un ongle.
Oui. Et pour parler à quelqu'un en Europe, il fallait réserver son appel environ 2 semaines d'avance. En 1995, Bell Canada lance un service de reconnaissance vocale qui fait en sorte que lorsque les abonnés signalent le 411, soit l'assistance, c'est un système robotisé qui répond au lieu d'un téléphoniste. Et les abonnés sont mécontents de ne plus pouvoir interagir directement avec un humain. Les téléphonistes voient leurs tâches migrer vers la gestion des plaintes, ce qui ne les enchante guère. Même si lors du lancement de son système, Bell Canada assure qu'aucun poste de téléphoniste ne sera coupé, hein, qu'est-ce qui arrive, la compagnie se départira de celle-ci en 1999 pour les offrir à la filiale américaine Excel Global Services.
Ouais.
L'émergence de la téléphonie cellulaire et de l'Internet auront raison de ce métier qui était pourtant si important quelques années plus tôt. Et c'était chaleureux.
Oui, la fille du téléphone.
Oui.
Eh bien, merci beaucoup. Est-ce qu'il y en a d'autres métiers
Ben, il va y avoir le quêteux.
Oui.
Oui. Ben là, on n'a pas le temps.
Non. Et puis, vous allez voir une belle exposition, là, en fin de semaine.
Oui, oui, oui. Je vais vous en parler, d'ailleurs, la semaine prochaine.
Okay. Premier. Du côté de Québec?
Oui, de Québec, les bijoux de la dynastie de Habsbourg. Les bijoux retrouvés de... Une partie des bijoux retrouvés de la dynastie des Habsbourg, ce grand empire qui est disparu en 1918. Mmh. Et les bijoux ont été cachés durant presque 100 ans à Québec dans une valise. Il y a des photos de la valise qu'on voyait dans les journaux. Une vieille valise, là. Évidemment, elle a 100 ans, la valise, là. Mais l'impératrice Zita, la dernière impératrice d'Autriche-Hongrie, avait confié la valise à une banque. C'était dans un coffre et il y avait seulement deux membres de sa famille qui étaient au courant, qui se transmettaient l'information.
Ah oui, vous allez aller voir donc des bijoux rares. Merci beaucoup, Serge. Au retour, c'est la chronique musicale avec Daniel Lachance.